Et plus j'aurai vu et saisi la sainteté de Jésus, moins je chercherai et verrai de la sainteté en moi. 2. Il me rendra saint, mon caractère, mes dispositions seront renouvelées, mon cœur, mon esprit seront purifiés, sanctifiés. La sainteté sera une nouvelle nature, et cependant, ce sentiment humiliant et joyeux en même temps demeurera toujours, ce n'est pas moi, mais Christ qui vit en moi. 3. Faisons-nous bien petits et bien dociles devant Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse nous révéler ce que c'est que d'être saint de la sainteté d'un autre, de la sainteté de Jésus, c'est-à-dire de la sainteté de Dieu. 4. Si nous réunissons maintenant les enseignements que nous avons trouvés dans la parole depuis Éden jusqu'ici, nous voyons que les éléments de la sainteté en nous sont les suivants, correspondant chacun à quelque aspect spécial de la sainteté de Dieu, profond repos chapitre 3, humble respect chapitre 4, entier abandon ou don de soi-même à Dieu chapitre V, joyeuse adoration chapitre 6, simple obéissance chapitre 7. Tout ceci préparant à la divine habitation du chapitre 8, habitation à laquelle nous participons, si nous demeurons en Jésus, qui porte sur son front la tiare de sainteté. Saint en Christ. Dixième jour. Sainteté et séparation. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, 24,26. Jusqu'à l'accomplissement des jours, pour lesquels le Nazaréen s'est consacré à l'Éternel, il sera saint. Pendant tout le temps de son Naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Nombre 6, 5,8. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Hébreux 13, 12,13. La séparation n'est pas la sainteté, mais c'est le chemin qui y conduit. Quoiqu'il ne puisse y avoir de sainteté sans séparation, il peut y avoir une séparation qui ne conduit pas à la sainteté. Il est de la plus haute importance ici de comprendre la différence et la relation, afin d'être préservé de l'erreur grossière de compter la séparation seule comme sainteté, aussi bien que de cette autre erreur, non moins grossière, de chercher la sainteté sans la séparation. Le mot hébreu employé pour désigner la sainteté vient très probablement d'une racine, qui signifie séparation, mis à part, ou séparé. Mais là où, dans nos traductions, nous avons séparé ou à retrancher, ou mis à part, nous avons des mots tout à fait différents. 4. Le mot employé pour saint l'est, exclusivement pour exprimer cette idée spéciale. Et quoique l'idée de saint renferme toujours celle de séparation, la sainteté renferme en réalité quelque chose d'infiniment plus élevé, il est d'une très grande importance de bien comprendre ceci, parce que le fait d'être mis à part pour Dieu, l'abandon de tout notre être au droit qu'il a sur nous, la consécration à son service, sont trop souvent considérés comme si c'était cela qui constitue la sainteté. Nous ne pouvons assez insister sur ce point, c'est que tout cela n'en est que le commencement, la présupposition, la sainteté elle-même est, infiniment plus que cela, ce n'est ni ce que je suis, ni ce que je fais, ni ce que je donne qui est la sainteté, mais ce que Dieu est, ce qu'il donne et ce qu'il fait pour moi, en moi. C'est Dieu prenant possession de moi qui me sanctifie, c'est la présence et la gloire de Dieu qui me rend réellement saint. Une étude attentive des paroles de l'Éternel à son peuple nous le rendra évident. 8 fois nous trouvons dans le livre du Lévitique cette expression, « Vous serez saints, car je suis saint ». La sainteté est l'attribut le plus élevé de Dieu, non seulement comme expression de ses rapports avec Israël, mais de son être même, de son essence, de sa perfection infinie. Et quoique ce ne soit qu'épalant et gradué qu'il peut faire comprendre à notre esprit charnel ce que cela signifie, cependant, dès l'origine il dit à son peuple que son but est qu'il soit fait semblable à lui, saint parce que, et comme il est saint. Me dire que Dieu sépare, mais à part des hommes pour lui-même, afin qu'il soit saint, comme lui-même se donne pour être leur Dieu, me parle bien d'une relation qui existe, mais ne me dit encore rien de la vraie nature de cet être saint, ou de la valeur essentielle de la sainteté qu'il veut me communiquer. La séparation, ce n'est que la mise à part, la prise de possession du vase, pour être purifié et utilisé, ce qui lui donne sa réelle valeur, c'est l'action de le remplir du précieux contenu. La sainteté, c'est le divin remplissage, sans lequel la séparation nous laisse vide. La séparation n'est donc pas la sainteté, mais la séparation est essentielle à la sainteté. Je vous ai séparé des autres peuples, vous serez saints pour moi. jusqu'à ce que j'aie choisi un vase et que je l'ai séparé de ceux qui l'entourent et, si c'est nécessaire, purifié, je ne puis ni le remplir, ni l'employer. Je dois l'avoir en main, à mon entière disposition, sinon je ne pourrai le remplir de lait ou de vin précieux. C'est précisément ainsi que Dieu sépara son peuple, quand il le transporta d'Égypte, le mettant à part pour lui-même lorsqu'il leur donna son alliance et sa loi, afin de les avoir sous son contrôle, et sous sa puissante main, pour exécuter son dessein, qui était de les rendre saints. Il ne pouvait arriver à ce résultat qu'en les mettant à part et en éveillant en eux le sentiment qu'ils étaient son peuple particulier, entièrement et uniquement sien, jusqu'à ce qu'enfin il leur eût enseigné à se séparer eux-mêmes pour lui. La séparation est essentielle à la sainteté. L'institution du Naziréat nombre 6 confirme ce que je viens de dire et montre aussi jusqu'à l'évidence ce que signifie la séparation. Israël devait être dans la pensée de Dieu une nation sainte. Sa sainteté était tout particulièrement typifiée dans ses prêtres. Quant à l'Israélite, comme individu, il ne nous en est jamais parlé dans les livres de Moïse, comme d'un homme qui soit saint. Mais il y avait des ordonnances, par le moyen desquelles l'Israélite qui voulait montrer son désir d'être entièrement saint pouvait le faire. Il pouvait se séparer de la vie ordinaire de son peuple et vivre de la vie d'un Naziréen, une vie séparée. Cette vie-là était considérée dans ces temps d'ombre et de type comme la sainteté. Pendant tout le temps de son Naziréat, il sera saint consacré à l'Éternel. Nombre 6, 5, 8. La séparation consistait spécialement en trois choses. Sa tempérance, ou plutôt l'abstinence de fruits et de vin, la pénitence ou l'humiliation, le ciseau ni le rasoir, ne devait toucher la barbe ou les cheveux du Naziréen. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, 1 Corinthiens 11, 14. Le renoncement à soi-même en ne se souillant ni pour un père, ni pour une mère à l'occasion de leur mort. Remarquons particulièrement ceci, c'est que la séparation ne concernait pas les choses illégitimes, mais les choses légitimes. Il n'y avait rien de criminel en soi dans le fait qu'Abraham vivait dans la maison de son père ou qu'Israël vivait en Égypte. C'est en abandonnant, non seulement ce qui peut être prouvé comme péché, mais tout ce qui pourrait empêcher la plénitude de l'abandon de nous-mêmes entre les mains de Dieu, afin qu'il nous sanctifie, que l'esprit de séparation se manifeste. Recueillons les leçons que cette vérité nous enseigne. Et d'abord nous devons connaître la nécessité de la séparation. Ce n'est pas une exigence arbitraire de notre Dieu, mais c'est dans la nature des choses que cette exigence a son fondement. Séparer une chose, c'est la franchir en vue d'une utilité spéciale ou d'un but, tellement qu'elle puisse avec une énergie entière accomplir la volonté de celui qui l'a choisie et réaliser ainsi sa destinée. C'est le principe qui se trouve à la base de toute la division du travail. Une séparation complète en vue d'une branche d'étude ou de travail est la condition indispensable du succès et de la perfection. On voit souvent à la lisière d'un bois un arbre qui est séparé de tous ses compagnons de la forêt, son tronc énorme, ses branches puissantes et étendues, prouve évidemment combien il lui a été utile d'être séparé, d'avoir pour lui tout seul une large étendue de terrain dans lequel ses racines puisse pousser sans obstacle et ses branches s'étendre à volonté, là est le secret de sa croissance et de sa grandeur remarquable. Nos capacités, comme hommes, sont limitées. Si Dieu doit prendre pleinement possession de nous, si nous voulons jouir pleinement de lui, la séparation pour lui n'est que la simple et naturelle condition requise. Dieu nous veut tout entier, pour lui afin qu'il puisse se donner tout entier à nous. Nous devons ensuite connaître le but de la séparation. C'est afin que nous soyons trouvés dans cette situation que Dieu a décrite en ces mots, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Dieu nous a séparés pour lui-même, dans toute l'étendue du sens de cette parole, et cela afin de pouvoir entrer en nous et se montrer lui-même à nous. Sa sainteté est la somme, et le centre de toutes ses perfections, c'est afin de nous rendre saints, comme lui qu'il nous a séparés. La séparation n'a jamais de valeur en elle-même, elle peut être un grand mal, et nous devenir nuisible, tout dépend de l'objet qu'elle a en vue. C'est dans la mesure où Dieu obtient et prend pleine possession de nous, dans la mesure où la vie de Christ se rend maîtresse de notre être tout entier, dans la mesure où le Saint-Esprit nous pénètre entièrement et nous remplit tellement que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous, que la séparation sera non une chose d'observance, d'ordonnance, mais de réalité spirituelle. Et c'est lorsque ce dessein de Dieu à notre égard sera vu, compris, accepté et suivi, que la question difficile de savoir de quoi nous devons nous séparer et quelle est la somme de sacrifices que la séparation demande de nous, trouvera une solution facile. Dieu nous sépare de tout ce qui ne nous conduit pas à sa sainteté et à sa communion. Nous avons besoin surtout de connaître la puissance de la séparation, la puissance qui nous y fait entrer dans un esprit d'ardeur, de joie, de liberté et d'amour. Le grand mot qui, dans le langage humain, séparer unit tout à la fois, c'est le mot mien. C'est dans ce mot que nous trouvons le grand ressort de l'effort et du bonheur, chez l'enfant avec ses joujoux, dans le travail avec ses gains et sa récompense, chez le patriote qui meurt pour son pays, c'est le mot mien qui met l'accent sur ce qui est séparé de toute autre chose. C'est le grand mot dont l'amour fait usage. Que ce soit l'enfant qui dise à sa mère, ma mère, et qui y entende la réponse, mon fils, mon enfant, que ce soit le fiancé, qui prenne de la maison de ses parents celle qui est devenue sienne, ou que ce soit le Dieu saint qui dise, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi, c'est toujours avec ce mot mien que l'amour exerce son pouvoir et attire à lui, pour le séparer de tout le reste, ce qu'il demande. Dieu lui-même ne connaît pas d'argument plus puissant, n'emploie pas d'être plus énergique que ses paroles, afin que vous soyez à moi. Et la puissance de la séparation, la force nécessaire pour que nous nous séparions pour Dieu, nous sera communiquée et agira en nous, dans la mesure où nous nous livrerons à l'étude et à la réalisation de ce but saint, que nous écouterons attentivement et apprécierons à sa juste valeur ce mot merveilleux, à moi, et dans la mesure aussi où nous nous laisserons saisir et posséder par l'amour puissant qui nous a fait sien. Étudions pas à pas le chemin merveilleux dans lequel l'amour divin fait son œuvre de séparation. Il nous en prépare la voie par la rédemption. Israël est séparé de l'Égypte par le sang de l'agneau pascal et par la colonne de nuée et de feu. Dans le commandement que l'Éternel leur donne, sortez et séparez-vous. Son amour réveille l'homme en vue de l'action, et dans cette promesse, je te serai Dieu, l'amour divin stimule le désir de croire et fortifie la foi. Dans tous les saints, dans tous les serviteurs de Dieu, et enfin dans celui qui était saint, sans tache, séparé des pécheurs, l'amour divin indique le chemin. Par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de sainteté, cet amour scelle la séparation, par la présence même de Dieu, d'un Dieu qui demeure dans l'âme qui le reçoit. Voilà, en effet, ce qui donne à la séparation une réelle puissance. La puissance sanctifiante de la présence de Dieu, voilà ce qu'il nous importe de connaître. À quoi connaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce devant tes yeux, et moi, et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués à part moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Exode 33, 16. C'est le sentiment de la présence de Dieu, qui nous a fait et nous maintient sien, qui produit la vraie séparation du monde et de l'esprit qui y règne, la séparation de nous-mêmes et de notre volonté propre. Et c'est dans la mesure où cette séparation est acceptée et appréciée par nous, et que nous y persévérons, que la sainteté de Dieu entre en nous et prend possession de tout notre être. Et nous ferons cette expérience, qu'être la propriété du Seigneur, son peuple particulier, c'est infiniment plus que d'être simplement compté et reconnu pour sien. Nous comprendrons que cela ne signifie rien moins que ceci, savoir que Dieu, par l'habitation du Saint-Esprit en nous, remplit notre être, nos affections, notre volonté de sa propre vie et de sa sainteté. Il nous sépare pour lui, et il nous sanctifie pour que nous soyons, nous, le lieu de sa demeure, où il habite. Il vient lui-même pour prendre personnellement possession de notre cure, en y faisant habiter Christ par la foi. Nous sommes alors vraiment séparés, et tenus à part, par la présence de Dieu en nous. Soyez saints, car je suis saint. Ô mon Dieu, qui m'a séparé pour toi, je t'en supplie, fais par ta vertu toute puissante, que cette séparation soit pour moi une vérité, un fait. Qu'en moi, dans les profondeurs de mon propre esprit, et qu'au dehors, dans mes rapports avec mes frères, la tierce sainte qui doit me séparer pour toi soit placée, constamment sur mon front. Je te prie surtout, ô mon Dieu, d'achever cette puissance de séparation pour tout ce qui concerne ma vieille nature. Que ta présence, par l'habitation de Christ en moi, soit le pouvoir qui renverse le moi de son trône. Ô mon Père, révèle pleinement ton Fils en moi. Le fait seul qu'il sera le roi de mon âme, pourra me garder pour toi, comme ta propriété. Et accorde-moi cette grâce, Seigneur, que pour ma vie extérieure j'attende toute sagesse de toi, afin que je puisse rendre témoignage, pour ta gloire et pour les besoins de ton peuple, au bonheur qu'il y a, dans un abandon de toutes choses entre tes mains, dans une séparation absolue et sans réserve, et dans le fait d'être à toi, et à toi seulement. Ô Dieu saint, visite ton peuple. Ô, sépare tes rachetés et éloigne-les de toute conformité avec le monde. Sépare, ô Seigneur, sépare les tiens pour toi, sépare-les comme le feu, sépare-leur des scories, afin qu'on voit qui sont ceux qui sont au Seigneur, ces saints. Amen. Un l'amour sépare efficacement. Avec quel amour jaloux un mari réclame sa femme, une mère son enfant, un avare ce qu'il possède. Demandez à Dieu qu'il vous montre par son Saint-Esprit comment il vous a amené vers lui pour que vous fussiez sien. Il est un Dieu saint et jaloux. L'amour de Dieu répandu dans le cœur rend la séparation facile. De la mort sépare efficacement. Si je fais mon compte d'être vraiment mort avec Christ, je suis séparé de mon moi par la puissance de la mort de Christ. La vie sépare encore plus puissamment quand je dis « ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Je suis élevé d'autant au-dessus de la vie du moi, de toute vie qui me soit personnelle. 3. La séparation commence dans l'amour et finit même. L'esprit de séparation, c'est l'esprit de renoncement, d'abandon complet de soi-même à l'amour de Dieu. Le chrétien le mieux séparé sera celui qui aime d'un plus grand amour, qui en gagne le plus par l'amour, celui qui est le plus complètement consacré au service de Dieu et de ses frères. L'amour qui se sacrifie, qui se donne, n'est-ce pas là ce qui sépare, ce qui distingue Jésus de tous les autres hommes? Voilà quelle a été pour lui sa séparation, par laquelle et dans laquelle nous devons lui être faits semblables. 4. La sainteté de Dieu, c'est sa séparation, entrons dans cette séparation du monde qui est la sienne, ce sera notre sainteté. Unis-toi à ton Dieu, tu seras alors séparé et saint. Dieu sépare pour lui-même, non par un acte venant du dehors, mais lorsque sa volonté et sa présence prennent possession de notre cœur. 4. Voir la note B à la fin du volume. Saint en Christ, 11e jour, le Saint d'Israël, car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Lévitique 11, 45. Le prêtre sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique 21, 8. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ésaïe 43, 3,14, 15. Dans le livre de l'Exode, nous avons vu Dieu faisant provision de sainteté pour son peuple. Dans les jours saints, les lieux saints, les personnes saintes, les choses saintes et les services saints, il enseignait à son peuple que tout ce qui l'entoure, lui, le saint, que tout ce qui veut s'approcher de lui doit être saint. Il ne voulait demeurer qu'au milieu de la sainteté, son peuple devait être un peuple saint. Mais il n'est pas fait mention là de Dieu lui-même comme saint. Dans le livre du Lévitique, nous faisons un pas de plus. 5. D'abord nous voyons Dieu parler de sa propre sainteté et faire de cette sainteté une justification de la sainteté réclamée par lui de son peuple, en même temps que la garantie et la puissance de ce peuple. Sans cela, la révélation de la sainteté serait incomplète et l'appel à la sainteté impuissant. La vraie sainteté viendra à nous quand nous apprendrons que Dieu lui-même seul est saint. C'est lui, le saint, qui seul sanctifie, c'est lorsque nous venons à lui et que nous sommes liés à lui par l'amour et l'obéissance que sa sainteté nous est communiquée. Du Pentateuque au livre d'Ésaïe, le prophète, il est rarement fait mention du nom de Dieu comme saint, mais dans le livre de ce prophète, qu'on a pu appeler le prophète évangéliste, nous l'y trouvons 26 fois, et sa vraie signification est révélée par la manière avec laquelle ce nom est lié au nom du Sauveur et Rédempteur. Les sentiments de joie, de confiance et de louange avec lesquels un peuple racheté regarderait à son libérateur sont tous mentionnés en relation avec le nom du Saint. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ésaïe 19, 6. Les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Ésaïe 29, 19. Tu te réjouiras en l'Éternel et tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Ésaïe 41, 16. En Éden, nous avons vu que le Dieu créateur était aussi le Dieu qui sanctifie, perfectionnant ainsi l'œuvre de ses mains. En Israël, nous avons vu que Dieu, le Rédempteur, était en même temps le Dieu qui sanctifie le peuple qu'il s'est choisi pour lui-même. Ici, dans le livre d'Ésaïe, nous voyons que c'est ce Dieu qui sanctifie, lui, le Saint, qui doit amener la grande rédemption de la nouvelle alliance, et cela en tant qu'il est le Saint, le Rédempteur. Dieu rachète par ceux qu'il est saint. La sainteté sera la rédemption amenée à sa perfection. La rédemption et la sainteté se trouvent dans des relations personnelles avec Dieu. La clé du secret de la sainteté offerte à tout croyant se trouve dans cette parole, « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, votre Saint. »